que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Dans le livre Machina Memorialis, l'historienne Marie Caruthers compare les palais de la mémoire et autres lieux mnémoniques aux dents et roues d'une machine qui permettent à l'ensemble de la structure de s'ébranler et de fonctionner. Par extension, quand on voit un théoricien faire un schéma au cours d'un raisonnement, ce n'est peut-être pas seulement pour résumer, synthétiser ou éclaircir sa pensée, c'est sans doute aussi pour créer quelques balises entre lesquelles il reste à refaire le chemin. Schématiser peut alors devenir une méthode poétique pour circuler dans un corpus en fixant des crans et en sollicitant la fantaisie pour évoluer de l'un à l'autre. C'est le principe qui a permis l'élaboration de ce métaclassique avec les étudiantes de la classe de métier de la culture musicale du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, auxquelles se sont joints quelques étudiants de l'ENS de la rue d'Ulm à Paris pour aller et venir dans la musique, les dits et les écrits du compositeur André Jolivet.
Moi, j'ai choisi d'orthographier le mot Jolivet, J-O-L-L-Y-V-E-R, le verbe. Et donc, qu'est-ce que rappelle ce mot? Évidemment, c'est un anglicisme qui vient de Jolly, donc une joie apparente et très externe. Et donc, Jolivet, c'est donner à l'atmosphère un peu cette joie extérieure, ou alors donner à quelqu'un ce caractère de joie extérieure.
Dans Jolivet, je voyais en fait le verbe oliver, et du coup ce serait en fait une conjugaison à la première personne, à l'imparfait, de joliver, et donc ce serait le verbe oliver. Ce serait rapport avec les olives, donc, et ce serait, je sais pas, soit la récolte ou alors le traitement de l'olive pour en faire l'huile, ce qui serait ce verbe-là. Et donc ce serait joliver pour quand on parlait au passé, quoi.
Du coup, joliver, c'est évidemment une fleur. Et ça s'écrit comme des giroflées, donc E-E-S, je pense, à la fin, avec un J-O-L-I avant. Et en gros, ça, c'est pas latin ou quoi, ça vient du français, du vieux français. Et ça a été une transformation parce qu'il y avait un riche noble qui avait plusieurs collines qui lui appartenaient, une sorte de montagne qu'il appelait lui-même le Mont Joli. Il disait souvent au Mont Joli, je vais. Et sur cette montagne, il y avait plein de fleurs qui ont pris ensuite le nom Jolivet.
Quelqu'un peut se dire aussi, en prenant le mot dans sa limite, que ça veut dire un peu abrutir, dans le sens là où, quand on dit de quelqu'un qu'il est joli, c'est qu'il est pas aussi très, enfin qu'il est un peu niais. Donc ça peut être rendre quelqu'un un peu niais.
Et du coup, en fait, maintenant, ça a été utilisé comme justement le verbe enniaiser, enjoliver. Voilà, un monde où tout est joli, tout est transformé, tout est atténué tout est fleuri pour que ça soit beau, quoi, et on cache la misère, quoi.
Donc ce mot, je l'écris joule yvet comme une prison, donc ça me rappelle une prison, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que ça pourrait rappeler? Une devise du temps jadis, Jolivet, inscrit comme armoirie, et je m'arrête là.
Dans ce qui peut rappeler ce mot, je pensais à Jolivet, toujours verbe aussi, qui serait un synonyme d'enjoliver, mais j'essaie de trouver une différence entre les deux. J'arrive pas. Enfin, je dis, quelle serait la différence entre enjoliver et Jolivet? Ce serait parce que enjoliver, du coup, c'est embellir une chose, la rendre plus jolie.
Ça pourrait aussi être une déformation de jellivet, qui nécessairement veut dire gélifier, enfin rendre sous forme de gelée, mais avec des nuances de gélifier, parce que la gelée, c'est plutôt pâteux en français, alors que jolifier, du coup, ça voudrait dire donner une texture un peu de flan, comme on peut avoir. Et quelqu'un avec trop d'imagination pourrait même dire, frauduleusement, qu'on l'écrit avec une orthographe anglaise pour pouvoir dire donner un style anglais, donc jolivet, mais jolivet pour un anglais. On voit que dans Jolivet, il y a déjà un Y qui ne vient pas du latin, et il suit deux L, donc nécessairement c'est un anglicisme, et donc quelqu'un qui ne prend pas une étymologie venant de l'anglais serait nécessairement dans le faux.
je suis partie d'un village qui s'appelle le Sommeil, qui amène à plusieurs types de rêves, en fait, selon les chemins qu'on prend. Donc, le chemin le plus rapide, c'est le sommeil sans rêve, qui amène à une sorte d'étape qui s'appelle le sommeil bleu-vert. C'est une sorte de sommeil un peu vaseux et assez tranquille. Et puis, on a plusieurs chemins donc, qui peuvent mener aux rêves surréalistes, aux rêves paysages lunaires ou aux rêves fiévreux. En sachant que sur ce rêve fiévreux, si on bifurque un peu trop, on peut tomber aussi sur un rêve de fête foraine sous l'eau. Et le petit écueil en bas à gauche, c'est le cauchemar qu'on va essayer d'éviter.
Le lac du mauvais rêve, avec l'orage et la fièvre potentiellement.
Enfin, quand le rêve devient cauchemar, c'est comme si il était corrompu, mais est-ce que tu peux passer directement au cauchemar directement, enfin au cauchemar, ou est-ce qu'il faut passer par...
Ah oui, moi mon cauchemar il est détaché du reste en fait.
Il est détaché du reste.
Ouais, il y a quelque chose d'un peu plus immédiat. Le reste c'est plus des... Le rêve fiévreux c'est pas forcément un cauchemar, mais c'est plutôt ce genre de rêve où on est un peu enlisé et c'est très entêtant et on n'arrive pas à s'en sortir et c'est fatigant, je sais pas, et on se réveille et on est vraiment très très fatigué.
C'est ça, contrairement au rêve.
Mais c'est pas forcément un cauchemar, on se réveille de manière, sous l'effet de la terreur, ou etc.
Quant au pont, je l'ai d'abord appelé poésie sur harmonie, puisque le fleuve s'appelle harmonie, pas harmonie au sens de ce qui est harmonieux, mais cette science des accords, de la multiplicité des sons. Et puis après, je me suis dit que j'aurais pu l'appeler aussi, enfin que le pont lui-même, ce serait peut-être le pont de Debussy, pour essayer de penser comment se passe ce passage, en fait, de la simplicité à la complexité. Alors les trajets sont multiples. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que j'avais envie de représenter ces œuvres que je connais très bien, ce qui complique et simplifie l'exercice à la fois.
Judith Green, vous êtes schématologue, ça veut dire quoi ?
Alors la schématologie, c'est la science de l'étude des schémas, donc c'est ce à quoi j'ai consacré une bonne partie de mon cursus aux Beaux-Arts. Et je me suis intéressée à la place des schémas et du dessin d'experts dans la bande dessinée, parce que ça a un lien avec mon travail artistique de dessinatrice. Donc j'ai commencé à faire des schémas quand j'avais 15 ans pour prendre des notes de cours. Et puis quand j'ai commencé des études d'art, c'est parti du côté de la narration plutôt.
Donc ça veut dire qu'un schéma peut contenir une narration ?
C'est pas la fonction première du schéma. Habituellement, c'est plutôt quelque chose d'informatif qui est utilisé beaucoup dans le champ de la vulgarisation, par exemple, ou de l'éducation de manière plus générale. Mais certaines personnes qui sont dans le champ de la création et de la narration se sont emparées de ces formes-là pour raconter des histoires, et c'est ce qui m'intéressait.
Si on produit un schéma, soit pour apprendre par cœur ou pour guider notre interprétation je me demande si ça peut pas aussi créer des limites où on va rester dans un certain cadre. Il y a une dimension de liberté tellement large dans l'interprétation que...
Bah, je dirais que le schéma, c'est un outil qu'on peut utiliser, qui n'est pas adapté à tout le monde, mais que si on ne se l'approprie pas, en fait, donc c'est pas une fin en soi, il faut en faire quelque chose. Donc je pense que c'est un outil qu'il faut transformer, quoi.
Il y a des correspondances, enfin, du coup il y a des chemins qui peuvent faire dialoguer différents lieux, qui peuvent justement les mettre en lien, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui qui tire vraiment d'un côté. Donc en fait, soit ça induit vraiment une direction prise, ou soit d'autres, c'est plus ou moins libre en fait. On peut trouver par exemple les terres de l'écho, ou encore le village, le village percussif, ou encore de l'instabilité. On a un autre village, si on remonte toujours le fleuve de l'axe nord-sud, qui serait un autre village qui s'appelle le village de l'oscillation, ou qui permettrait finalement, enfin c'est plutôt un village, c'est plus qu'un pont, c'est un peu un carrefour, c'est un peu qui rassemblerait plusieurs autres villages des deux rives, parce que le village de l'oscillation, il est entouré par aussi bien l'instabilité qu'on a vu, mais aussi l'insistance. Et de l'autre côté, on a aussi un peu plus lointain, le village du rebond, le frottement ou encore l'orientalisme. Et plus près aussi, on a le village de la Gogie. Donc il y a plein de passerelles comme ça entre ces différents villages. Mais si on s'éloigne trop de plus en plus vers l'est, si on repart, en fait, on atteint plutôt des terres où il y a on rencontre les terres de la suspension, ou encore de la circularité, et qui, si on prend pas garde, on peut tomber dans le lac de la blancheur acoustique.
Est-ce que votre schéma narratif est toujours le même pour une seule pièce ? Et est-ce que vous pensez pas que cette idée de schéma narratif peut vous enfermer dans une seule vision de la pièce, peut-être parfois ?
Donc je dirais pas que mon schéma narratif, il est figé. Par contre, en arrivant au concert... J'ai des habitudes. On a tous une interprétation qui est quand même aboutie, donc on sait à peu près ce qu'on va faire. Par contre, quand je reprends une œuvre, je reprends ma partition et donc j'imprime des schémas narratifs différents. Et surtout, ce que je trouve de merveilleux, c'est quand on a cette possibilité de faire plusieurs concerts d'une même œuvre, d'arriver à une forme d'improvisation de l'instant dans une... globalité qui est quand même définie. Ou de se dire tout d'un coup, moi, ça m'arrive en concert, je change totalement l'affect. Il y a un schéma narratif qui est plutôt fait dans les grandes lignes, mais qui peut changer au dernier moment sur des points précis. Voilà.
Et donc là, plusieurs chemins possibles, avec tout à droite la remise en question, par exemple, ça peut être d'un point de vue ou d'une position qu'on peut adopter, avec des villages qui symbolisent plusieurs étapes, comme la réflexion, le cheminement intérieur.
Une pluie qui se calme,
l'hésitation.
Une pluie qui endort.
Qui peuvent amener ensuite à l'opposition, l'enveniment, la dispute, et donc ça rejoint la mère du rejet.
Donc si j'ai bien compris, c'est une seule et même... carte qui bouge dans le temps, donc un seul paysage finalement qui se métamorphose selon le temps, donc le paysage qui bouge, mais aussi selon ton état d'esprit, j'imagine, pendant que tu le regardes. Donc pour toi, il n'y a pas du tout de cheminement, c'est vraiment tu regardes quelque chose et c'est une sorte de finitude du paysage qui bouge. Enfin, pas dans ton cheminement de ce paysage, mais vraiment dans le temps qui passe, quoi.
En fait, il y a des lieux, mais du coup, c'est des états mentaux, quelque chose du genre différent. Et en fait, quand on va d'un lieu à un autre, ce qu'on fait, c'est visiter le temps. Et là, on peut l'imaginer comme circulaire. Enfin, je fais les œuvres dans l'ordre, mais... On peut imaginer passer d'une tempête à un océan calme. On ne sait même pas ce qui est le plus souhaitable. Si c'est mieux de passer d'une tempête à quelque chose de calme ou l'inverse.
Et on a un raccourci qui est de partir de la mise au lit, prendre un somnifère. Donc c'est ce qui traverse entre les deux. C'est le somnifère qui mène directement à la mer du repos. Mais il y a un obstacle dans cette ce ruisseau qui mène jusqu'en haut, c'est le pont de la mort. C'est un peu glauque, mais c'est ce pont-là qui relie en fait tout l'Est à l'Ouest et qui aussi est l'obstacle à la voie facile qu'on pourrait prendre si on prend un somnifère pour aller directement à la mer du repos.
À l'inverse, si on s'écarte trop vers l'Ouest, qu'on prend justement donc le chemin de la longueur, on peut rencontrer aussi le village de l'écho ou encore donc du village percussif, mais on peut aussi aller jusqu'à la mer de la dualité.
Un début d'averse avec pluie, donc des gouttes, avec quelques gouttes, un peu de froid aussi.
Donc finalement, il y a au départ la partition, mais il y a aussi ce que vous ressentez. Enfin, il y a un côté très émotionnel, oui, dans votre schéma, oui, narratif.
Oui. Ah oui, c'est très important parce que sinon, je pour moi, il n'y a pas de sens en fait à la musique. Et je suis très. Je vois les étudiants, le rapport critique au texte, c'est-à-dire qu'il y a une soumission au texte qui est que je trouve effrayante en fait. Parce que pour travailler beaucoup avec des compositeurs actuellement, mais ils savent ce qu'ils veulent à 70%, pas plus. Des fois, je dis, mais regarde, donc par exemple, un signe schématique, le cluster, qu'un compositeur comme Martin Matalone utilise énormément. Donc, il écrit des clusters très précis. Donc, vous avez sur des tierces, j'ai une pièce, j'avais passé trois semaines rien que sur deux lignes. Je dis, écoute, Martin, j'y arrive pas. Ah, mais ça n'a, les hauteurs n'ont aucune importance. Et là, j'ai dit « Ok !» Voilà, donc c'est un peu un pari, c'est-à-dire arriver à décoder qu'est-ce qui est de l'ordre de la pensée du compositeur qui est vraiment, qu'on sent à force de rencontrer des œuvres, et qu'est-ce qui est ma sauce à moi et qui ne trahit pas l'écriture du compositeur. Quoi. Mais les étudiants qui arrivent ici, ils sont là... vraiment, mais oh, mais là, j'ai fait un fa dièse au lieu d'un fa bécard, c'est terrible. Je dis oui, c'est peut-être terrible, mais tu t'es arrêté, c'est encore pire que d'avoir laissé ton fa dièse de passage. Voilà.
Le souci des cartes, c'est qu'elles bougent à peine. Elles sont dessinées une bonne fois pour toutes. Moi, je pense qu'au même endroit, on peut trouver différents paysages. Paysages tranquilles, paysages tempêtes. Il suffit de se déplacer dans le temps. On peut alors faire la carte d'un lieu unique, d'un seul atome. Quelle que soit l'échelle, le niveau de granularité, on peut faire la carte d'un seul individu et son expérience singulière. C'est comme un océan qui n'a pas de bord, on peut recommencer en parcourant la carte, on peut recommencer et revoir les mêmes lieux, et tout se mélange un peu dans le temps, un peu comme l'eau dans l'eau, et voilà. Du coup, c'est ça, c'est un peu... on peut imaginer un seul endroit, celui où tout se passe, donc l'océan, et le temps qui passe dans ce lieu.
Et qu'est-ce que vous comprenez d'une personne qui dit, par exemple, « ceci est trop schématique » ?
Alors, je pense que le schéma peut intimider certaines personnes, parce que c'est une forme visuelle qui est très liée au monde intellectuel. Et donc, être trop schématique, ce serait peut-être être trop éloigné de certains codes populaires qui sont plus accessibles. Mais il y a aussi la deuxième face de la pièce, où comme le schéma a beaucoup été utilisé dans la vulgarisation, ça peut aussi mettre certaines personnes en confiance, parce que c'est des codes qu'on a l'habitude de voir dans la vie de tous les jours, des plans d'évacuation, des choses comme ça, il y en a partout autour de nous. Donc, ça dépend de la façon dont on... décide de regarder ces images.
l'impression que tous les schémas ont l'air de prendre acte que ça commence par des variations, enfin des ondulations quasi incohérentes ou...
Cette grande mélodie, elle est quand même frappante. Donc on a tous cherché, je pense, à trouver un geste qui la représente.
Oui, c'est vrai que les débuts sont plus chaotiques que la fin, par exemple, est très minimaliste, c'est beau. Et pour moi qui suis absolument pas capable de lire une partition, c'est intéressant aussi de me poser la question de ce qui est vraiment cohérent avec les codes du solfège et de ce qui s'en écarte. Est-ce que c'est possible pour les personnes qui justement savent lire la musique d'expliquer à quel point c'est lié ou pas à des conventions de représentation avec lesquelles vous travaillez habituellement ?
Il y a certaines représentations graphiques qui sont des codes de notation. Par exemple, je vois les points d'orgue sur la partition d'Oriane qui signifie vraiment le silence, mais qui est quand même un aspect très graphique finalement de la partition. Et je sais pas si c'est la même chose sur sa représentation que ce que j'ai essayé de faire, mais il y a quelque chose qu'on peut pas forcément faire dans une partition qui est représentée un petit peu la densité du son par rapport au jeu en fait de l'instrumentiste qui est enfin, je sais pas si c'est ce que tu as voulu représenter. Moi, je sais que c'est ce que j'ai un peu essayé de faire, en tout cas avec les passages un peu plus épais au niveau des traits. Mais
moi, ça, pour moi, c'était la densité, effectivement. À un moment, je me suis dit, on est obligé d'abandonner la ligne. S'il y a une histoire de densité, et j'ai pas trouvé d'autres moyens.
Parce que je me demande, là il y a une convention dans la notation musicale qui veut que le haut corresponde à l'aigu, mais là j'ai l'impression que le haut sert à autre chose.
C'est ce qu'on nous dit souvent en violoncelle, c'est que l'aigu pourtant est en bas sur l'instrument. Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal, d'assez... Ouais. Mais c'est vrai que j'ai quand même gardé cette idée, on a tous plus ou moins cette représentation de toute façon des aigus vers le haut, je sais pas exactement pourquoi, mais...
La plupart des dessins, cette partie montante a été complètement niée par la dernière partition là, qui est complètement verbale. Il y a des phrases « je suis seul et puissant »,« je suis seul avec mon silence ». Et donc effectivement, c'est au moment où on part dans les aigus, le sens de lecture descend. Donc je suis curieuse d'avoir une explication sur cette image.
Donc ça suit le temps plutôt classiquement, mais il y a quand même un haut et un bas qui correspondent au moral. Qui peut être haut et bas, donc on commence avec « je suis seul et puissant » qui est vraiment tout en haut, et qui est au début du morceau, après ça descend petit à petit. Le moral, « je suis seul avec mon silence, il m'appartient rien que pour moi, je suis avec ma propre musique ». Et en fait, parce qu'au fur et à mesure du morceau, on a l'impression d'éternité, de je sais pas comment dire, mais on commence à s'ennuyer, on a l'impression que les jours se ressemblent et qu'il ne se passe rien, et après en fait on a une remontée dans le moral et dans la partition. Il faudrait apprendre à jouer d'un instrument, mon voisin va me tuer, et là en fait le moral remonte, mais il vient avec tout un tas d'autres questionnements, et on a une densité justement vers la fin de la partition, avec plein de chemins possibles. Le premier, celui qui correspond au meilleur moral, c'est « mon voisin va me tuer, ce serait bien qu'il me tue, que je tue ce silence ». Ensuite, on en a un qui est un peu plus... un moral qui est toujours un peu haut, mais qui fait une branche différente, qui est... ce serait, donc, mon voisin va me tuer, ce serait bien de parler à quelqu'un. À quoi ressemble sa musique? Est-ce que nous avons la même musique? Et depuis, ce serait bien de parler à quelqu'un, on peut aussi partir un peu dans un moral plus bas. Mais c'est pas le même... Ce serait bien de parler à quelqu'un, mais c'est pas le même silence. C'est un silence rempli de bruit. Et enfin, le moral le plus bas, le chemin qui va vers le moral le plus bas, c'est « Mon voisin va me tuer, je pourrais jouer ma musique, je serai seul avec mon instrument et ma musique. »
Mais en fait, c'est une partition qui veut dire que la pièce nous apprend à cumuler les niveaux de hauteur de morale. C'est-à-dire qu'au début, on ne peut pas être en haut et en bas à la fois, ouais. Alors qu'à la fin, on peut avoir le moral à la fois très haut et très bas en même temps.
Peut-être. Là, ça vient en fait d'une idée qui va avoir en fait plusieurs chemins et qui correspond à la densité et plusieurs destins possibles. Et alors qu'au début du morceau, il y a vraiment une question de solitude, mais aussi vraiment il y a qu'un seul chemin possible, quoi.
On voit très clairement face à ces partitions quelle personne avait envie de représenter la technique et quelle personne avait envie de représenter leurs états intérieurs.
Voulez-vous me permettre une distinction essentielle entre ceux que j'appellerais les graphomanes et ceux qui méritent vraiment la qualification de compositeur?
Il me semble évident que vous devez être placé dans la seconde catégorie. Et je crois d'ailleurs que ce sont uniquement les véritables compositeurs qui participent à la solution des problèmes généraux de la musique de notre temps, dont vous venez de parler.
Ce qui n'empêche qu'avant d'être compositeur, il est bon de commencer par être un graphomane, c'est-à-dire d'être possédé de la maladie de disposer des signes musicaux sur du papier à portée. Prenez l'exemple d'un homme supérieurement musicien comme Déodat Sévrac, qui est à peine considéré comme compositeur du fait de sa répulsion à écrire.
Il oppose le graphomane au compositeur. Donc selon lui, le graphomane, la graphomanie serait le fait de recopier les signes musicaux sur la portée, là où le compositeur serait un créateur. Mais en réalité, ces deux notions sont reliées, puisque la graphomanie permet la matérialisation de la pensée sonore créative et permet aussi au compositeur d'effectuer une sélection dans cette pensée créative.
Et quand s'opère la transition, ou plutôt la transmutation nécessaire entre la satisfaction de cette simple manie de graphomane et le véritable acte créateur du compositeur?
C'est au moment où l'agencement des notes sur le papier à musique devient la matérialisation d'une authentique pensée sonore.
Authentique, dites-vous?
Oui, car toute pensée musicale n'est pas forcément bonne à écrire. Une sélection est nécessaire parmi les idées musicales.
Le chant de Linos était, dans l'Antiquité grecque, une variété de traînes, lamentation dansée, cri funèbre, une lamentation funèbre, une complainte entrecoupée de cris et de danses. Sur cette donnée, André Jolivet a écrit une espèce de rhapsodie pour flûte et... non.
Pour quintette instrumentale.
Pour quintette instrumentale.
Si la flûte y joue un rôle mélodique prédominant, le violon, l'alto, le violoncelle et la harpe n'en sont pas moins essentiels pour créer une atmosphère sonore particulière. En effet, si je n'avais pas été en froid avec mon confrère trompettiste, j'aurais peut-être inclus une sixième voix pour lui.
Les cordes pincées et frottées et le mélange de leurs timbres participent à la création d'une atmosphère particulière dont émerge le chant de la flûte.
Ou plutôt le violon, l'alto, le violoncelle et la harpe prédominent pour ce qui est de l'atmosphère mélodique. Mais n'oublions pas la flûte, particulière dans son rôle sonore. Ils sont aidés en cela par le langage basé entièrement sur des modes grecs, principalement l'hyperphrygien en forme chromatique, le lydien chromatisé et l'hyperphagie aromatisée. l'œuvre servit de boucher ou morceau de concours au Conservatoire national en 1944. Depuis, les élèves des classes de flûte considèrent que parvenir à le jouer est le test qui les confirme comme virtuoses de leur instrument, et on attend toujours de pouvoir donner ce titre à un flûtiste. Le chant de Linos est dédié à qui pourra le jouer et à ses collègues du quintet Pierre Jamet.
Le chant de Linos, rayé, le chant de Lolos, c'est un chant funèbre de l'Antiquité grecque, glorifiant la flûte. J'ai choisi de faire alterner trois types de musique, lamentation, cri et danse. Pour rendre cette atmosphère de la Grèce antique, incarnée par les dialogues de Platon, entre parenthèses à reformuler, j'ai adopté différents modes, entre parenthèses à compléter. J'ai adopté trois modes grecs, les modes hyperphrygiens, lydiens et phrygiens, la harpe et les cordes étant chargées d'évoquer la lyre d'Apollon.
Hyperphrygien, lydien, chromatique pour langage. Mode phrygien, naguère condamné par Platon, véhémence dionysiaque. Cette œuvre servit de morceau de concours d'entrée, non de sortie, concours au Conservatoire national en 1944. Interpréter cette œuvre confirmera comme virtuose et mènera chaque flûtiste à la gloire éternelle. Bon, peut-être pas tous. Les élèves de classe de flûte considèrent que parvenir à la jouer égale test, plus dédicace à Crunel, etc. Demander non quintette.
Imposé au concours de flûte du Conservatoire en 1944, le chant de Lolos a été interprété par Jean-Pierre Rampal, qui en est devenu le champion. L'œuvre est dédiée à Gaston Crunel, virtuose de Lolos moderne.
Composé à l'occasion pour le concours du Conservatoire de Paris, National de Paris, National, en 1944, Le chant de Linos est une rhapsodie. Le chant de Linos est une lamentation pour violon alto, flûte, violoncelle et harpe pour quintette instrumentale.
De la Grèce antique, le chant de Linos date de la Grèce antique. Bref, de l'Antiquité, l'Antiquité. Le chant de Linos date de l'Antiquité, de la Grèce antiquité.
Dans l'Antiquité grecque, chant de Linos était...
C'était une varicelle, une variété de mélopée,
le chant de
thème,
C'est la principale inspiration, cri, oui. Cette lamentation chips, est la base de mon travail. Une rhapsodie, une espèce de rhapsodie pour quintette, etc. Ainsi, j'ai fondé mon langage de composition essentiellement sur des modes grecs. Entièrement sur des modes grecs. Pour finir la pièce sur le mode phrygien.
Sur cette donnée, André Jolivet a écrit une espèce de rhapsodie pour cinq têtes monumentales, cinq cantales démentales, une clientèle, une quintette anormale. Il a écrit pour quintette instrumentale. Merde, bref, vous avez compris.
Pour finir, sur le mode phrygien qui converge finalement sur le mode phrygien dans la danse finale, mode qui fut condamné par Platon dans la République. Mode qui fut condamné par Platon, pour lequel fut condamné pour sa signification, pour son utilisation, évocation des bacchanales, pour son dionysiaque. La flûte y occupe une place centrale, une place absolument fondamentale sur le plan mélodique, si bien que la virtuosité de l'écriture en fait une pièce de choix pour les concours d'orchestre, en fait une pièce de choix, en fait l'épreuve ultime des virtuoses confirmées, à finir pour la semaine du 10.
L'œuvre servit de morceau de concours au Conservatoire National en 1944, et ce fut une terrible catastrophe puisque le violon et la flûte, ayant complètement oublié de s'accorder, les do dièses furent chaque fois un désastre pour les auditeurs. Entre parenthèses, il n'est peut-être pas nécessaire de garder cette partie-là. Et je souhaite bon courage à tous les flûtistes qui seront condamnés à travailler leur technique des heures durant et qui, bavant et pleurant dans leur instrument, me maudiront d'avoir composé cette terrible pièce.
Est-ce que vous pensez que le schéma peut aussi être approprié ou proposé pour le public?
Je vois deux choses, du coup, puisqu'on parle maintenant de... On parle de participation du public et de contribution du public. Du coup, dans la médiation, dans le programme de notes de programme, on peut imaginer des schémas qui peuvent guider l'écoute. Je ne sais pas si sur toutes les œuvres d'un concert, ça aurait du sens. Il y a peut-être des œuvres qui s'y prêtent mieux. Et puis, oui, pourquoi pas. Faire un concert où les gens peuvent toucher, vraiment, on parle de l'interprétation comme dans l'objectif de toucher les gens par la résonance, donc peut-être qu'ils peuvent toucher à leur manière avec leurs crayons et leurs feuilles de papier lors du concert, peut-être, voilà.
Donc dans ce cas-là, ce serait plutôt le public qui schématise l'œuvre selon leur propre spectre, mm-hmm. prisme. Est-ce que dans le cas, par exemple, où l'artiste ou un compositeur pouvait proposer, dans le cas de partitions graphiques, quelque chose qui pourrait se rapprocher d'un schéma.
Parce qu'on comprend bien que le schéma, si c'est en même temps un aide-mémoire, c'est aussi une espèce de façon de souligner la structure de l'œuvre, par exemple. Mais est-ce que donc, à ce moment-là, c'est pas un risque de la paraphraser ou de la surjouer, la dite structure?
Dans l'interprétation, étant donné que l'interprète est un médiateur entre le créateur et la personne qui la reçoit, s'il n'y a pas un processus de doublure, je pense que l'interprétation ne peut pas marcher, en fait. Si je n'essaye pas de reproduire en moi l'écriture ou le processus de fabrication de l'œuvre, je peux passer à côté de quelque chose. Donc je pense que la paraphrase est nécessaire dans l'élaboration d'une interprétation.
Parfois, c'est plus facile de passer par des images, souvent dans l'enseignement, que de dire « je veux tel son » ou « je cherche tel son ». Ça doit être un peu plus... C'est brumeux ou c'est plus... Et en fait, bizarrement, ça aide à trouver de nouvelles sonorités, en fait.
Ça dépend aussi beaucoup de la pièce. Mais plutôt des images... ponctuel, il n'y a pas toujours un déroulé ou il n'y a pas toujours d'histoire. C'est quand, que ce soit quand je joue ou même quand j'enseigne, je passe beaucoup par des images. Parce que, pour le ressenti, je pense. Parce que je fais appel souvent à soit des images, des situations qu'on a tous, par lesquelles on est tous passés et on a un état... que ce soit physique, une sensation vraiment palpable, ou un état psychique, donc plus des sensations émotionnelles. Mais je fonctionne beaucoup comme ça. Après, pour les histoires, ça dépend vraiment de l'œuvre, si ça s'y prête. Enfin, si ça s'y prête, c'est une question subjective, mais certainement aussi, ça dépend du contexte dans lequel on aborde l'œuvre, dans la... le contexte dans lequel on joue. Dans...
J'avais trouvé un livre qui était un peu une sorte de manuel pour avoir des bonnes notes, on va dire, où il y avait des conseils pour faciliter l'apprentissage. Et il y avait tout un chapitre qui était sur la prise de notes. Et c'était un livre qui date des années 90, et c'est une période où il y a eu une grande vogue du schéma dans le monde de l'entreprise et aussi dans le monde de l'école. Et donc ce chapitre en particulier sur les notes conseillait aux élèves qui voulaient réussir à l'école de prendre des notes sous forme visuelle avec des petits compartiments, des flèches, des pictogrammes pour mieux mémoriser. Moi, je me suis dit, mais excellente idée, puisque j'adore dessiner, je vais faire ça dans les cours, ce sera une manière de pouvoir faire ce que j'aime 8 heures par jour sans me faire punir. Et donc j'ai commencé à faire ça le premier jour de mon entrée au lycée. Ça a un peu étonné les profs au début, qui pensaient que j'étais en train de gribouiller et de pas du tout écouter. Et puis, de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que si, c'était vraiment les phrases qu'ils prononçaient, que j'écrivais dans les formes géométriques que je dessinais. Et puis, ça a été complètement accepté pendant ma scolarité. On ne m'a jamais posé de problème avec ça. Et ça a été très pratique pour apprendre. Je peux témoigner que ça fonctionne quand on a une mémoire visuelle.
Et est-ce que le schéma profite plus à celui qui le fait ou à celui qui le lit?
Alors, je pense que dans le cas de ces prises de notes, ça me profitait plus à moi qu'à qui que ce soit, parce que quand j'avais des camarades absents, par exemple, qui me demandaient si je pouvais leur prêter des cours, c'était toujours un peu compliqué, parce que moi, je connaissais toutes les circulations qu'il devait y avoir entre les différentes parties, mais pour des gens qui n'étaient pas du tout habitués à ce mode de prise de notes, c'était très déstabilisant.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de mauvais schémas ?
C'est une question épineuse. Moi, j'aime tous les schémas et ils m'inspirent tous. Donc, je ne suis pas impartiale, on va dire, mais je pense qu'un mauvais schéma, c'est tout simplement un schéma qui est trop compliqué à interpréter pour la personne qui est en face. Mais graphiquement, un mauvais schéma peut être intéressant si ça part dans plein de directions. Il y avait un livre qui était sorti là-dessus qui s'appelait « Images de pensée » et qui collectait des diagrammes qui avaient été faits par des artistes, des philosophes, des chercheurs, des scientifiques. Et qui les mettait sur le même plan, et c'était intéressant de voir d'un corps de métier à l'autre quelles étaient les conventions de représentation. Évidemment, les schémas qui étaient faits par les artistes étaient les plus brouillons. Mais ça revient à la question qui était posée au début de est-ce que le schéma est là pour la personne qui le fait, ou est-ce que le but c'est de le partager avec quelqu'un d'autre?
Moi, je me posais la question, quand on évoque le schéma dans un cadre musical, ça me fait plutôt penser à tout ce qui touche à l'improvisation, à comment un petit peu cartographier une œuvre et comment finalement tous se retrouver autour d'un même chemin. Et est-ce que vous, quand vous travaillez, comment vous gérez cette notion entre liberté et cartographie, entre organisation et improvisation quelque part ?
Alors ça, c'est la grande question de ma vie. Mais ça dépend vraiment des projets et des sujets. Parfois, je me dis que avoir plus de liberté créative est intéressant, et parfois, offrir plus de liberté de circulation à la personne qui ensuite verra le schéma a plus de sens. C'est vraiment au cas par cas. J'ai pas de recette miracle pour ça. Et j'imagine que c'est exactement la même chose en musique. Ça dépend des œuvres. Il y en a qui se prêtent plus à des formes de partitions qui sont extrêmement organisées, et puis d'autres qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas plus de liberté dans le mode de passation.
Et finalement, si on fait le parallèle entre les schémas et les partitions, donc dans l'univers musical, finalement, on remarque l'apparition de la partition qui est arrivée aussi dans un sens de transmission, pour aussi faire un petit peu perdurer un type de répertoire. Est-ce que dans le cas d'un schéma, il y a cette idée de laisser une trace, de transmettre quelque chose, un message, ou de vraiment laisser le spectateur ou la personne qui lit le schéma totalement libre d'interpréter tel qu'elle le souhaite?
Alors ça, je pense que ça dépend entre les personnes qui travaillent dans le champ de la vulgarisation, par exemple. Là, il y a vraiment cet impératif de transmettre un savoir concret. Mais dans les schémas que moi je fais, il n'y a pas du tout d'ambition d'apporter de la connaissance aux personnes qui sont en face. Je suis vraiment dans le champ de la narration. Après, contrairement au champ musical, où il y a vraiment cette idée de transmettre un savoir-faire très précis qui doit être similaire d'une personne à l'autre, ou en tout cas, enfin, similaire est peut-être pas le mot, mais qui doit être proche, disons. Dans le champ des arts visuels, il n'y a pas nécessairement cette volonté de, d'uniformisation d'une personne à l'autre. Parce que la question de l'expression personnelle ne se pose pas de la même façon entre le chant musical et le chant des arts visuels.
Et de fait, est-ce que, selon vous, une partition peut être assimilée ou non à un schéma ?
Alors, moi j'ai tendance à avoir des schémas partout, donc je vais vous répondre que oui, mais peut-être que vous avez un point de vue différent sur la question.
On a sous les yeux une carte d'État qui pourrait qui pourrait représenter différentes étapes, par exemple de quelqu'un qui pourrait soit se trouver dans une soirée ou un événement plutôt festif, parce que on voit on a un éléphant et une trompette qui font de la musique, parce qu'il y a des notes de musique qui s'échappent du pavillon de la trompette. Et de cette trompette, cette trompette amène à un moment élégant qui nous amène au bas d'un escalier. Et tout en haut de cet escalier, cet escalier, on peut le monter via les notes de musique qui nous amène à l'état de vedette.
Et de cet état de vedette qu'on pourrait garder, on voit qu'on a une descente directe
aux enfers.
Aux enfers. Symbolisé par le vomi sur la moquette. Et on voit que le chemin est assez libre et qu'on peut passer d'un état à l'autre assez rapidement et alterner entre tous ces états, puisqu'on a la mélodie de danseuse, la mélodie amoureuse, la mélodie anxieuse, très proche du trou noir du blackout.
Et la mélodie trompeuse qui est très proche de la trompette aussi.
Fait.
Mais aussi proche du moment éléphant, qui communique aussi avec un autre état, mais qui est un petit peu plus bas, qui est l'état de pompette.
Elle est marrante, cette carte. Elle est en grande partie remplie d'un océan, c'est l'océan dansant. Et de cet océan, ou alors se jetant dans cet océan, on a le fleuve chantant. Au tout milieu de la carte et qui semble séparer un peu de territoire de royaume. Je sais pas si tu vois ça aussi.
Oui, qui se relient au final quand même par un pont. Et tout au bord de cet océan, enfin de ce bord-ci, je suis pas sûre, mais en tout cas d'un des deux côtés, côté nord, il y a plusieurs herbes. Enfin, il y a une côte avec des herbes qui poussent.
Et d'accord, donc ça serait... en fait, surtout sur cette côte-là, il y a écrit ivre ou ivresse. Donc l'océan dansant, le fleuve chantant, ça serait une danse ivre et un chant ivre. Ou ça serait potentiellement une ivresse dans la danse et dans le chant.
Mais c'est vrai qu'on a... On a l'impression qu'il y a quand même un côté un peu imaginaire avec le magicien, la magie. C'est ce qui ressemble à une forêt et puis un paysage, à la fois un paysage naturel et à la fois un paysage de rêve. Il y a une forêt lointaine qui est attirante, peut-être un peu... qui peut faire un peu peur, peut-être. Parce qu'il y a des sapins qui ont l'air épais et denses. C'est la forêt du lointain, enfin, on dirait. Mais il y a aussi plusieurs arbustes du mystérieux, de ce côté, toujours un peu de l'imaginaire.
En fait, c'est marrant parce que, donc là, vers le nord, on a aussi un paysage anesthésié, où, enfin, on a l'impression que c'est un peu brumeux, juste à côté de la forêt dense dont tu parlais. Et en fait, si on suit le chemin depuis le pont qui traverse le fleuve chantant, on commence par le magicien, puis par le mystérieux, et après on peut arriver sur ces territoires anesthésiés, endormis, lointains. Et ce qui est marrant, c'est qu'au sud, on a donc au sud du fleuve, on a plutôt des choses plus rationnelles ou plus terre à terre. On a le capricieux, le joueur, l'agaçant. Je dis le parce qu'on a l'impression qu'on parle d'adjectifs pour décrire une personne.
Et ce qu'il y a aussi dans le nord, on a l'impression que bon, l'océan dansant, finalement, on pourrait peut-être s'y baigner. Mais sauf qu'à trop rester sur la côte, on... En fait, sur la côte, il y a cette, ces petits roseaux où il y a l'ivresse et un peu plus haut, il y a l'anesthésié. Mais tous les deux sont au bord de cet océan. Donc peut-être qu'à trop rester, à trop danser, à trop nager, peut-être qu'on... Ou alors on sort assez vite de cet océan et soit on prend le fleuve chantant et on va de plus du côté terre à terre. Soit on peut aller s'aventurer dans le lointain ou sortir assez vite de la côte, enfin de, du rivage. Mais en tout cas, ce rivage, il a l'air un peu soit rêveur, soit on peut peut-être se perdre aussi dans l'anesthésie ou s'oublier ou devenir ivre. Est-ce que ça serait négatif? Je ne sais pas trop, mais...
En tout cas, l'ivre, on dirait le nom d'un marécage. Je ne sais pas si tu vois ce que tu décrivais comme une côte avec, avec des herbes. On dirait une sorte de marécage qui pourrait nous amener à l'anesthésier.
C'est un, c'est un, une dynamique. Enfin, c'est une dynamique. Il y a un tourbillon, en tout cas, entre la folie joyeuse. Enfin, là, ce que je vois, la folie joyeuse, la folie dimensielle, démentielle, pardon. La perte de contrôle.
On part quand même de juste un côté un peu lyrique, démonstratif, ridicule, qui peut finir en évanouissement. Donc c'est un peu la spirale infernale. On a l'impression d'être encore dans une soirée parce qu'on on a la danse, on a le joyeux. Mais tout ça nous amène vers la folie démentielle et, comme tu as dit, la maladresse. On finit sur un fil avant de s'évanouir. Mais ce qui est intéressant, c'est cette forme de spirale. On se demande si on pourrait partir de l'évanouissement.
On se demande si on peut sortir. Il n'y a l'air d'avoir aucune porte de sortie. Et de... À part peut-être à la folie joyeuse, il y a quand même l'air d'avoir un petit espace. Est-ce qu'on peut sortir ou est-ce que c'est juste quand on est pris dans la folie, on est forcément forcé de s'évanouir à la fin?
Je verrais une entrée sur la carte à partir de la mer Errance. Par la mer Errance, on arriverait sur une plage, la plage du chancellement. Et à partir de là, on peut longer le fleuve de l'effusion en croisant l'instabilité, le doute, le tâtonnement. Mais je pense que ça vaut la peine de traverser, par exemple, le doute pour accéder au lac mystère.
Moi, comme toi, je vois pas forcément de chemin prédéterminé. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a des zones qui sont quand même plus axées sur certaines émotions. Par exemple, près du lac de la sérénité, on va retrouver le calme, la joie, tout ce qui est festif, etc. Et en même temps, on a un pont, le pont de la réflexion, qui nous amène immédiatement à la zone, on va dire, des émotions... considérées comme négatives, en tout cas la colère, le caprice, le bouillonnement, etc. Mais il n'y a pas de chemin déterminé, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on peut aller un peu où on veut et puis un peu dans le sens qu'on veut.
Finalement, la partie nord, avec la colère, le caprice, l'entêtement, le bouillonnement, elle est séparée du lac Sérénité au sud, par le seul pont de la réflexion. On a trois types d'abris: la bienveillance, le renfermement sur soi et la psychanalyse ou la thérapie, qui est survolée par le renouveau. Disons que la confiance veille sur l'ensemble de la carte, mais elle est menacée par le nuage du regret et elle est quand même assez préservée d'un orage qui est le malheur, la dépression, la perte de soi.
C'est une carte du doute de soi, en tout cas effectivement, avec les différents chemins qu'on peut prendre, soit pour s'en sortir, soit pour, soit quand on n'arrive pas justement à peut-être à faire des choix plutôt qui seraient positifs pour nous.
Alors, il y a plusieurs façons de lire un schéma. Est-ce que celui qui a fait le schéma a décidé de toutes ces façons en amont, ou est-ce qu'il y a encore une liberté dedans ?
Alors parfois, je suis étonnée par les directions que les gens prennent quand ils lisent des schémas. Mais j'aime bien qu'il y ait cette liberté, justement. Ça me frustre quand il y a trop d'autorité dans les modes de lecture, quand les choses sont imposées de manière un peu brutale. Par exemple, je pourrais pas écrire un livre en sachant que quelqu'un voudrait commencer par la première phrase et terminer par la dernière. J'aime vraiment le fait que ces formes graphiques donnent carte blanche aux personnes qui sont en face et qu'il n'y ait pas forcément besoin non plus de lire les choses en entier. Je sais très bien que quand je fais des expositions, il y a des gens qui lisent vraiment tout dans l'ordre des flèches et qu'il y a des gens qui vont lire une phrase en haut à gauche, et puis après une phrase en bas à droite, et puis après retourner en haut à gauche. Donc ça me plaît que les gens puissent grignoter ce qui les intéresse. Mais ça me plaît de mettre beaucoup de responsabilité entre les mains des personnes qui regardent, justement. Je pense que c'est un rapport assez égalitaire entre la personne qui crée l'œuvre et puis celle qui va la lire. De se dire qu'on fait confiance aux gens et que leur interprétation est tout aussi valable que ce que moi j'ai voulu mettre dans l'œuvre. Ça me plaît que ce soit pas trop vertical, hiérarchique comme ça, et de vraiment avoir ce lien de confiance avec les personnes qui regardent les œuvres.